Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 3 août avec vous, Jean-Noël Ducasse. Au sommaire, le journal, les sports, le journal de la semaine en France, un extrait de Europa Voice et on parlera aussi de passe sanitaire en France. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Le Queensland enregistre 16 nouveaux cas locaux de COVID-19 et en Nouvelle-Galles du Sud, 199 nouveaux cas ont été signalés depuis hier. Le trésorier fédéral introduira de nouvelles mesures d'aide au paiement COVID-19 et en sport, un athlète olympique biélorusse demande l'asile en Pologne. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 199 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement depuis hier. 53 de ces cas se trouvent dans des unités de soins intensifs, dont 43 personnes non vaccinées et 5 cas âgés entre 20 et 30 ans. La première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, déclare qu'elle veut voir les restrictions assouplies le 29 août prochain et elle encourage les gens à se manifester et à se faire vacciner.
6 million is the target I want to set by the end of August. We're at 3.9 million. I suspect we'll be at 4 million by the end of the week or in the next few days. And that is a target I'd like to set for New South Wales. And I'm really urging everybody to come forward, to listen to the health advice. If you have any concerns, go through your GP. But please know that the more of us that get vaccinated, the greater chance we have to live freely beyond August 29.
Le Queensland a enregistré 16 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement au cours des dernières 24 heures sur un peu plus de 34 000 tests effectués. 9 des nouveaux cas sont liés à des épidémies existantes dans diverses écoles de l'État et 5 nouveaux cas sont des contacts familiaux ou des cas déjà confirmés, tandis qu'un cas est d'un cas connu. La médecin-chef Dr Janet Young a déclaré que la meilleure façon de faire face à l'épidémie est de rester à la maison et de se faire vacciner.
That's why lockdowns work, because we know that the virus can burn out. So please just stay at home. So if you're uncertain, just stay home. And if you need assistance, please you can ring for help. Of course, anyone who needs food, you can go out and buy that food if you need it. Of course you can. But if you don't need to leave home, please don't leave home.
Un verrouillage de 3 jours a été prolongé de 5 jours jusqu'à au moins 16h dimanche prochain, 8 août. Le Victoria a signalé 4 nouveaux cas locaux de COVID-19 alors que les résidents le long de la frontière de l'État avec la Nouvelle-Galles du Sud se préparent à une répression des bulles de voyage. Tous les cas sont liés aux épidémies actuelles et étaient isolés pendant toute leur période d'infection. Cela survient alors que le Victoria interdit les voyages non essentiels en provenance de Nouvelle-Galles du Sud à partir de 23h59 ce mardi soir. On écoute Brett Sutton, médecin-chef du Victoria.
We need to make sure that we can clear those remaining 3,000 primary close contacts and make sure that no one has been out in the community during a potentially infectious period that might kick all of this off again.
Environ 2500 employés de Qantas et de Jetstar arrêteront de travailler pendant environ 2 mois en réponse aux épidémies de COVID en cours. La suspension est une mesure temporaire pour faire face à une baisse significative des vols aériens causés par les restrictions du COVID-19 dans le Grand Sydney et il n'y aura aucune perte d'emploi. Qantas a déclaré que la décision aurait un impact sur les pilotes pour les vols domestiques, le personnel de cabine, les employés de l'aéroport, principalement en Nouvelle-Galles du Sud, mais également dans d'autres États, compte tenu de la nature des réseaux des compagnies aériennes. Un plus grand nombre d'Australiens désormais éligibles au paiement de soutien COVID de la part du gouvernement fédéral, avec des parties du Queensland déclarées hotspot, ainsi que des parties du Grand Sydney. Des paiements supplémentaires pour les bénéficiaires de Centrelink commenceront à partir de ce mardi, ainsi qu'un paiement de $750 pour les travailleurs qui ont perdu plus de 20 heures de travail en raison des restrictions liées à la pandémie. Le directeur général de Services Australia, Hank Youngen, a déclaré à l'ABC que les paiements sont généralement traités dans les 48 heures qui suivent.
We've mobilised staff right across the organisation. Some 14,000 staff have been moved away from normal behind-the-scenes activity to ensure that we meet the requirements that we're facing at the present time.
Les travaillistes affirment que le gouvernement fédéral devrait offrir un paiement de $300 aux Australiens entièrement vaccinés pour donner au programme de déploiement un coup de pouce bien nécessaire. Mais le front bencher de la coalition, Simon Birmingham, a déclaré que la proposition était insultante pour les nombreux Australiens qui se sont déjà présentés pour obtenir leur vaccin. On craint que le programme de vaccination COVID-19, qui a jusqu'à présent délivré 12,4 millions de doses, ait été trop lent et mette en danger la santé et la reprise économique du pays. Le leader des travaillistes, Anthony Albanese, souhaite que le gouvernement de Scott Morrison verse un paiement unique de $300 à chaque personne qui a été complètement vaccinée d'ici le 1er décembre, y compris à celles qui ont déjà été vaccinées. Et ailleurs dans le monde, les restrictions sur le coronavirus dans certaines parties de la Thaïlande et de l'Indonésie seront prolongées, tandis que les autorités iraniennes affirment que les nouvelles infections quotidiennes ont atteint un niveau record. Le confinement dans la capitale thaïlandaise et dans plus de 2 douzaines d'autres provinces va durer encore au moins 2 semaines, à moins qu'il n'y ait une amélioration. Et les habitants du sud du Kerala, en Inde, sont inquiets après que l'État soit devenu le récent hotspot COVID-19 du pays, après avoir signalé plus de 20 000 cas par jour la semaine dernière. Pendant ce temps, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que l'assouplissement des restrictions de voyage pendant une pandémie reste un défi.
We've had to balance it because of the anxiety that I think a lot of people have, I have, about importing new variants, bringing back the disease. But we also have to recognise that people want badly to go on their summer holidays. We need to get the travel industry moving again. We need to get our city centres open again. And so we want an approach that is as simple as we can possibly make it.
Et puis, les prix de vaccins de Pfizer et de Moderna vont augmenter. C'est ce qu'a décidé leur laboratoire respectif, selon le Financial Times de Londres. Précision de Altine Lazage pour Radio France Internationale.
Le prix du vaccin Pfizer devrait augmenter d'environ 25% et celui de Moderna d'un peu plus de 10%, a révélé le quotidien britannique. Pour le gouvernement français, cette hausse se justifie par les nouvelles exigences de la part de l'Union européenne. Les laboratoires doivent adapter leurs vaccins aux nouveaux variants et permettre que l'essentiel de la production se fasse sur le territoire européen, a réagi le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune. Cette hausse des prix intervient alors que l'inquiétude sur la propagation du variant Delta grandit. Les études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant. Profitant du succès de leur sérum, les deux laboratoires multiplient les contrats et engrangent d'importants bénéfices. Une situation dénoncée par Oxfam, qui accuse les groupes pharmaceutiques de profiter de leur monopole pour gonfler artificiellement les prix. Selon une enquête de cette ONG, l'Union européenne aurait payé 31 milliards d'euros de plus que le coût de production des vaccins.
En Haïti, où l'insécurité se fait sentir de plus en plus dans les quartiers défavorisés, où les gangs font la loi, écoutez la chef de mission de MSF, Médecins sans frontières en Haïti, Alexandrea Guidi-Sandra. Elle est avec Stéphanie Schuller pour RFI.
L'entrée, elle est bien marquée comme un centre d'urgence MSF, mais il n'est pas seulement opérationnel, mais on ne peut pas garantir ce qui se passe à l'intérieur.
Et vous avez donc peur, en fait, qu'éventuellement les habitants se rendent sur place ?
Et la raison pour laquelle on a fait le communiqué de presse, c'est justement pour prévenir tout le monde qu'il n'y a aucun personnel d'MSF présent dans la structure et qu'on n'a aucune responsabilité par rapport à ce qui se passe dans le site.
Est-ce que MSF prévoit d'ouvrir un autre centre dans la région de Port-au-Prince ?
On est en train d'envisager des options. On est en discussion aussi avec le ministère de la Santé pour pouvoir avoir tous les permis nécessaires pour le faire. Donc oui, absolument. On ne veut pas abandonner la population. On doit choisir un endroit dans lequel on est moins exposé au risque. Mais visiblement, le risque zéro, aujourd'hui, ça n'existe pas. La sécurité dans la ville, non, elle n'est pas garantie.
L'explosion du port de Beyrouth, c'était il y a presque un an, le 4 août 2020. Jérôme Bastion, pour RFI, nous en dit plus sur la situation un an après.
Le Liban s'apprête à commémorer le premier anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth. Cela fera un an ce mercredi. Une année donc que les autorités libanaises ont passé à entraver de façon éhontée la quête de vérité et de justice des victimes que dénonce ce lundi Amnesty International dans un communiqué. La directrice régionale adjointe de l'organisation se dit étonnée de voir, je cite, « jusqu'où les autorités sont prêtes à aller pour se soustraire à la justice ». Citation. Depuis le drame du 4 août 2020 qui avait fait plus de 200 morts et dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise, aucun responsable n'a pour l'heure été traduit en justice et de nombreuses zones d'ombre demeurent, notamment sur les raisons de la présence d'une grande quantité de matières explosives dans le port de Beyrouth. Et puis, toujours au sujet du Liban, la conférence internationale consacrée à ce pays est organisée mercredi par Paris, un an jour pour jour après l'explosion du port de Beyrouth, vise à réunir une aide d'urgence d'au moins 350 millions de dollars pour la population libanaise, alors que le pays s'enfonce dans la pire crise économique de son histoire.
Les combattants talibans avancent davantage dans la capitale provinciale du sud de l'Afghanistan, Lashkarga, vers les bâtiments gouvernementaux, entraînant de violents combats avec les forces gouvernementales. Le porte-parole du département des États-Unis, Ned Price, a déclaré que les talibans étaient responsables d'actes de violence atroces dans cette capitale.
The targeted killings. The destructions of buildings, of bridges, other vital infrastructure, other violent acts against the people of Afghanistan, we recognize they are in stark contravention to statements from the Taliban leadership.
Et le président afghan blâme les États-Unis pour avoir abandonné son pays. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a critiqué l'Iran pour une attaque de drone contre un pétrolier au large des côtes dans la mer d'Oman, affirmant que les États-Unis sont convaincus que l'Iran a mené l'attaque. Antony Blinken a déclaré que les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et la Roumanie envisageaient une réponse collective à la dernière attaque. On passe à la météo pour ce mardi. En Australie, à Perth, il fera 17 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 13, Hobart 13 également, Canberra 11, Sydney 21, Brisbane 28, Cairns 28, Darwin 33 et à Alice Springs, maximale de 25 degrés. Un rappel des grands titres de ce 3 août. Le Queensland enregistre 16 nouveaux cas locaux de COVID-19 et en Nouvelle-Galles du Sud, 199 nouveaux cas ont été signalés depuis hier. Le trésorier fédéral va introduire de nouvelles mesures d'aide au paiement COVID-19. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/ sbs.com.au/sbsfrench.
Ceci est un message du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. La Nouvelle-Galles du Sud est actuellement en état d'alerte maximale concernant le coronavirus. Si vous vivez dans le Grand Sydney ou dans les régions de la Central Coast, des Blue Mountains, de Shell Harbour et de Wollongong, vous devez rester chez vous, à moins que vous n'ayez une raison impérieuse de sortir. Il est impératif que vous ne receviez pas de visiteurs chez vous, même si ce sont des membres de votre famille. Les commerces non essentiels doivent rester fermés au public et n'opérer qu'en ligne ou via un système de click and collect s'ils le peuvent. Des restrictions supplémentaires s'appliquent à ceux qui vivent dans les zones de Fairfield, Canterbury-Bankstown, Liverpool, Cumberland, Blacktown, Parramatta, Campbelltown et George River. Si vous habitez dans l'un de ces quartiers, vous ne pouvez pas le quitter pour aller travailler, à moins d'y être expressément autorisé. Pour toutes les dernières informations, rendez-vous sur nsw.au.
À Sydney, depuis hier, lundi matin, 300 militaires assistent la police pour faire respecter le confinement dans les 8 municipalités où sont concentrés la majorité des cas de Covid-19. Notre collègue Grégory Pless est allé demander aux habitants de ces quartiers ce qu'ils en pensent. Reportage.
Les rues sont presque vides dans le centre d'Auburn. En fait, le seul attroupement, il se trouve sous la tente où sont pratiqués des tests PCR. Dans cette banlieue populaire de Sydney, l'armée assiste pour faire respecter le confinement. L'idée ne plaît pas du tout à Richard.
L'armée a un rôle bien précis et il ne consiste pas à superviser et à réguler les citoyens.
Steve Christou, le maire de Cumberland, où se trouve la banlieue d'Auburn, est également scandalisé. Il craint par ailleurs que la présence de militaires puisse traumatiser certains de ses administrés.
60% des habitants de Cumberland sont nés à l'étranger et pour la plupart, il s'agit de réfugiés qui ont fui la guerre. Ils n'ont pas tous eu une expérience agréable avec l'armée.
Mais dans le quartier, certains saluent cette décision. Sagar, par exemple, veut y voir un moyen de sortir plus vite du confinement.
C'est une bonne chose car il y a trop de cas de Covid et en plus on parle du variant Delta. Je crois que le gouvernement fait de son mieux et si on applique des mesures très dures maintenant, on pourra plus rapidement lever les restrictions et le confinement.
Au final, le bruit des bottes est plutôt discret. Ces 300 militaires, qui distribuent aussi des repas aux indigents, opèrent sur un territoire grand comme la Seine-et-Marne.
Journal des sports de ce mardi avec les JO de Tokyo. Le Français Jean Kikampoa a gagné l'or en finale du tir au pistolet rapide à 25 mètres. Le point avec Sarah Loubacouche et Romain Ouzoui pour Radio France Internationale.
Le tireur Jean Quicampoix a mis dans le mille. Il a remporté le titre en finale pistolet vitesse 25 mètres. Le tireur égale au passage le record olympique avec un total de 34 points sur 40 possibles. Médaillé d'argent à Rio, champion d'Europe en titre, il est le quatrième champion olympique français au tir depuis 1984 et il en est particulièrement fier.
Je suis extrêmement soulagé et extrêmement heureux d'avoir gagné l'or aujourd'hui. C'est vrai que c'est un travail et un objectif de 5 ans. Donc voilà, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Donc je suis vraiment très très heureux et satisfait du travail accompli. C'est énormément d'émotion parce que voilà, on vit pour cette médaille d'or. Donc voilà, quand elle arrive et qu'on a travaillé et qu'on est récompensé, c'est forcément de l'émotion. Donc je suis vraiment très heureux d'avoir gagné aujourd'hui. C'est vrai que j'y pense tous les jours, je m'imaginais gagner, etc. Donc ouais, je suis extrêmement heureux. Après, c'est vrai que je laisse pas forcément transparaître mes émotions, mais c'était beaucoup de jeu aujourd'hui.
Jean Quicampoix qui a ramené la 6e médaille d'or à la délégation française.
Et autre médaille remportée aujourd'hui pour la France en équitation.
Les cavaliers français, ils ont obtenu la médaille de bronze au concours complet par équipe. Nicolas Touzin, Karim Laguague et Christopher Six ont terminé 3e, donc derrière la Grande-Bretagne et l'Australie. C'est la 23e médaille française au total. Une déception en revanche pour le gymnaste Samir Aït Saïd, l'un des porte-drapeaux de la délégation tricolore. Il a terminé 4e du concours des anneaux. Blessé au bras, il quitte donc Tokyo sans médaille. Lui qui avait déjà dû déclarer forfait à Rio après une grave blessure pendant les qualifications.
L'Australie est donc médaillée d'argent du concours complet d'équitation et c'est la Grande-Bretagne qui a gagné l'or et la France le bronze. Dimanche, l'or pour la France, également championne en escrime du fleuret par équipe. Écoutons les précisions de Christophe Diremzian pour RFI.
La dernière fois qu'un fleurettiste français a libéré sa rage d'avoir vaincu en finale par équipe, c'était au jeu de Sydney. Mais en quittant la piste de Tokyo, sa médaille d'or autour du cou, Enzo Lefort, champion du monde 2019 en individuel, savourait surtout la douce revanche prise sur les Russes, vainqueurs à Rio.
Ça trottait dans la tête de tout un chacun. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force, c'est ce qui a fait qu'on était aussi rigoureux. On s'est dit que n'importe quelle touche pouvait nous mettre en danger, donc on voulait leur donner aucune touche facile. On a tiré comme des morts de faim. On a été hyper rigoureux et c'est pour ça qu'à la fin, il y a un tel écart. Et c'est sûr que avoir dans un coin de sa tête cette déconvenue de Rio, ça a joué.
Dans la tête d'Erwan Lepechou trottait aussi le douloureux souvenir de 2016. En remportant l'ultime assaut, le vétéran de 39 ans évacue sa frustration et met aussi la touche finale à sa carrière sportive en rendant hommage à ses coéquipiers.
Je réalise qu'on a été incroyables tous les quatre, soudés, unis et qu'on a vécu un moment incroyable. Ils m'ont offert un beau cadeau pour ma dernière. En plus d'avoir gagné, il y a eu plein de choses, plein de mots, plein d'émotions qui m'ont donné. Et du coup, moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui en fait. C'est pas forcément la victoire, c'est ce que je réalise pas encore, c'est surtout le cadeau que m'ont fait les gars et leur soutien.
Un quatuor en or qui amène à l'escrime tricolore sa 5e et dernière médaille, le meilleur total au jeu depuis Athènes en 2004.
Les handballeuses françaises ont battu le Brésil hier 29-22 et disputeront les quarts de finale demain mercredi. Martin Guez. RFI.
Après deux défaites et un match nul, les coéquipières de Grace Zahadi ont haussé leur niveau de jeu pour passer en quart de finale. Elles ont battu le Brésil 29-22 pour se qualifier un match référence. Enfin, pour les Bleus, les vice-championnes olympiques restent en course. Et l'entraîneur Olivier Crumbles ne va pas s'en plaindre.
Très heureux de la qualification, bien sûr, mais très heureux aussi de la qualité de jeu. C'est la première fois dans ce tournoi qu'on domine réellement l'adversaire. On a dominé par moments, mais là, on a dominé jusqu'à fléchir un petit peu à la fin parce que de toute façon, il n'y a plus d'histoire de goal average. Le score n'avait aucune importance. Mais je trouve qu'on a été constant, qu'on a été bon en défense. Les gardiennes ont été excellentes. Ça, c'est une grande, grande nouvelle parce qu'on va avoir besoin d'elles. Peut-être qu'on les a mieux protégées aussi. Je trouvais que la défense était plus cohérente. Elles ont beaucoup travaillé pour préparer ce match, ça se voyait. Et c'est de bon augure pour préparer le quart de finale. Donc maintenant, il va falloir à chaque match tout donner, sans arrière-pensée. Et je pense qu'on va donner notre maximum et être, je l'espère, encore un peu plus performant qu'aujourd'hui.
Un mot de foot, les Australiennes, les Matildas et les Américaines vont se batailler pour la médaille de bronze. Les Australiennes ont perdu en quart de finale hier face aux Suédoises, 1-0. L'athlète vénézuélienne Yulimar Royas a battu le record du monde en finale du triple saut dimanche, 15,67 m. C'est le record à battre désormais. Et puis on revient sur l'exploit dimanche de l'Italien Lamont Marcel Jacobs sur le 100 mètres. Il a devancé Fred Kerley, l'Américain, et le Canadien André Degrasse. Christophe Jousset, RFI.
Bon départ de Ronnie Baker contre Kerley, et puis l'Italien Jacobs, oui, au couloir numéro 3, il serre les points, l'Italien Lamont Marcel Jacobs, qui passe devant les Américains, de grâce en troisième position, ouais, ils n'ont pas hésité, Lamont Marcel Jacobs, qui remporte ce titre olympique, un Italien champion olympique du 100 mètres, successeur de Usain Bolt.
Si en 2016 on avait dit à Usain Bolt que son successeur au palmarès des Jeux serait un Italien, ça l'aurait sans doute fait sourire. Il aurait plutôt misé sur un Jamaïcain comme lui ou sur un Américain. D'Américain, Lamont Marcel Jacobs n'a que le nom. Celui de son père, un basketteur du Texas, qui a rencontré une Italienne. Le petit est né à El Paso, il a grandi avec sa mère à Rome. Ce dimanche, dans le huis clos du stade de Tokyo, il est devenu l'un des plus étonnants champions du 100 mètres que l'histoire olympique ait produit. Qui pensait ce gaillard de 26 ans au crâne lisse et à la barbe fine, taillé pour le rôle. Certes, il flirtait ces dernières années avec les 10 secondes, il avait même brisé la barrière en mai dernier en 9,95, mais ce matin encore, son palmarès pouvait se résumer à un titre de champion d'Europe en salle sur 60 mètres. Jacobs a d'abord lancé un avertissement en demi-finale, en battant le record d'Europe en 9 secondes 84. Il a conclu en finale en 9 secondes 80 devant l'Américain Kerley et le Canadien De Grasse. Les Italiens avaient gagné les Jeux sur 200 mètres, avec Livio Berruti en 1960 et Pietro Menea en 1980. Mais Lamont Marcel Jacobs est le premier à offrir à son pays le titre de champion olympique du 100 mètres.
Soufiane El Bakkali a remporté la médaille d'or sur le 3000 mètres steeple, le premier champion olympique du Maroc depuis Hicham El Guerrouj en 2004. Tennis, l'Allemand Alexander Zverev sacré avec l'or dimanche quand il a gagné la finale contre le Russe Karen Khachanov et l'Espagnol Pablo Carreño Busta a pris le bronze face à Novak Djokovic, le Serbe. Le judoka français Teddy Riner a déclaré qu'il sera au JO de Paris en 2024. On l'écoute sur European Broadcasting Union.
Quand je vois et je croise les regards de mes camarades, on est tous contents. Des étoiles dans les yeux, de la fierté, envie de réaliser des grandes choses encore. Surtout quand on sait que dans 3 ans, c'est Paris 2024. Donc là, c'est le moment de fêter, de prendre le temps de bien rester, de savourer ce petit nuage sur lequel on est. Et puis après, de redescendre et puis de reprendre le chemin de la compétition, le chemin de la préparation pour réussir à faire de beaux Jeux Olympiques à Paris. Ah, je vais tout faire pour être là, je vais tout faire pour terminer là-bas, je vais tout faire pour vivre ces Jeux Olympiques à Paris, à la maison, devant notre public, devant notre famille, devant nos amis. Et je pense qu'ils sont admiratifs parce que pour battre des Japonais à la maison, il faut y aller. Ils savent que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, beaucoup d'abnégation. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'était le feu. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a papoté. Non, on a papoté. On a rigolé, on s'est amusé, on a fait la fête. Il y en a qui n'ont pas dormi, il y en a qui à un moment ont quitté la soirée. C'est des moments qu'il faut vivre pleinement, voilà. Et je crois que toute la semaine et pour certains tout le mois, ça va continuer à fêter.
Et puis l'athlète biélorusse Kristina Szymanouskaya a déclaré avoir été forcée à quitter les JO à Tokyo après avoir critiqué la fédération de son pays sur les réseaux sociaux. On vient de l'apprendre, la Pologne a accordé un visa humanitaire à l'athlète biélorusse. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Eh bien, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour, Émile.
Bonjour, Jean-Noël. Bonjour à tous.
À la une, les vacances d'été du gouvernement.
Oui, ils ont droit, eux aussi, les ministres, à des vacances, et plus généralement tout l'exécutif, hein, du président de la République, Emmanuel Macron, aux ministres, en passant par les députés, toute la chaîne de l'exécutif, de l'Élysée, à l'Assemblée nationale, en passant par Matignon. Tout ce petit monde va s'octroyer 2 à 3 semaines de vacances, comme chaque été, hein, quand arrive la fin du mois de juillet. Alors, le chef de l'État a rejoint sa résidence d'été au fort de Brégançon dans le Var. Emmanuel Macron, petit retour en arrière, qui a été très actif ces 3 dernières semaines, hein, depuis son intervention télévisée du 12 juillet, où il a durci les règles en matière de vaccination et de passe sanitaire. Ensuite, défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, le défilé classique, les militaires, les avions. Puis le lendemain, il était dans les Pyrénées pour marquer là sa présence sur le Tour de France. Les cyclistes du Tour, on l'a vu discuter avec Julien Alaphilippe, avec David Godu. Quelques annonces toujours dans les Pyrénées le lendemain. Et il s'est envolé ensuite pour Tokyo, le Japon, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le défilé des athlètes. Et une fois dans le Pacifique, en Asie, eh bien, tant qu'à faire, il a enchaîné par sa visite en Polynésie française. Emmanuel Macron jusqu'aux îles Marquises, il a reconnu là que la France, oui, avait une dette envers les Polynésiens au regard des essais nucléaires que les militaires français ont effectués durant 30 ans, de la fin des années 60 à 1996 dans le Pacifique. Une sacrée séquence, en tout cas pour le président de la République. Ces 3 semaines, il va prendre un peu de repos, Emmanuel Macron, comme tout l'exécutif, même si la menace du variant Delta et du Covid-19 est toujours là, plus que jamais même, hein, on est dans ce qu'on appelle la 4e vague en France, plus de 20 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque jour en ce moment. Alors le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a reconnu, hein, je cite, que la trêve estivale sera assez peu une trêve eu égard à la crise sanitaire. Il faut rester vigilant. Un conseil de défense est d'ores et déjà programmé pour le 11 août par visioconférence. Gabriel Attal qui a précisé que la 4e vague frappait désormais tout le territoire.
Quelle est la situation sanitaire précisément en France ?
Bien, plus de 1000 personnes se trouvent en réanimation. La situation elle est jugée par les autorités sanitaires, politiques, dramatique. En Outre-mer, en Martinique et à La Réunion, un nouveau tour de vis a ainsi été imposé. La population est confinée. Et en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, l'état d'urgence là, a été décrété dans tous ces territoire d'outre-mer, les hôpitaux ne parviennent plus à faire face au nombre de malades qui nécessitent d'être pris en charge. En métropole, là, eh bien, la situation sanitaire elle se dégrade aussi, mais le gouvernement se refuse pour l'instant de prendre des décisions radicales à l'échelle nationale. En tout cas, on l'a bien compris, même si l'exécutif ne l'a pas dit comme ça, il veut laisser autant que possible les Français aller au bout de leurs vacances d'été. Hein. Il y a eu ceux qui sont partis au mois de juillet, il y a ceux qui partent au mois d'août. Pas question d'imposer quelque chose venu d'en haut avant la fin du mois d'août. Les restrictions, quand il y en a, elles sont prises localement, à l'échelle des villes ou des départements. Hein, c'est ainsi que le port du masque, qui n'était plus obligatoire en extérieur, eh bien, le redevient dans nombre de centres-villes, toute la côte atlantique notamment. Et puis en Haute-Corse ou dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, les restaurateurs se voient de nouveau bridés avec l'obligation de baisser pavillon dès 23h. Un couvre-feu qui ne dit pas son nom. Alors toutes ces mesures, elles répondent à la propagation très rapide du variant Delta. À partir du début du mois d'août, là, nous y sommes. Hein, le pass sanitaire est entré en vigueur avec des restaurateurs qui vont devoir demander aux clients eh bien, de montrer qu'ils sont vaccinés ou bien qu'ils ont effectué un test très, très récent dans les dernières 48 heures. Mais la bonne nouvelle, malgré tout, eh bien, c'est que les personnes vaccinées, elles échappent presque toutes aux symptômes. Les chiffres sont formels. 95% des personnes qui sont hospitalisées en ce moment pour Covid-19, 95% sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées ou bien qui n'ont reçu qu'une dose de vaccin. L'efficacité du vaccin, elle est donc indéniable et même spectaculaire. C'est pour cela que les autorités poussent les Français qui ne l'ont pas encore fait à se faire vacciner. 42 millions de personnes en France ont reçu au moins une dose. La moitié de la population est totalement vaccinée, deux doses. Et le gouvernement, eh bien, il se donne pour objectif d'accélérer encore la cadence en matière de vaccination, d'atteindre les 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin à la fin du mois d'août, quand se profilera la rentrée.
Cela n'empêche pas les anti-vaccins de continuer à se mobiliser.
Oui, un peu à l'image de ce qu'avaient fait les gilets jaunes, hein, il y a deux ans de cela, ces manifestants qui se donnent rendez-vous chaque samedi pour afficher et clamer leur droit à ne pas se faire vacciner et plus généralement bien pour dénoncer les restrictions imposées par les différents textes de loi et décrets adoptés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les privations de liberté. Quelques jours après l'intervention du président de la République qui avait annoncé l'obligation d'être vacciné pour toutes les personnes travaillant à l'hôpital, hein, sous peine de sanctions, et tout cela a été traduit dans la loi, eh bien, le premier appel à manifester, il avait réuni 110 000 personnes, chiffre officiel. Donc on peut raisonnablement penser qu'il y en avait beaucoup plus. Puis une semaine plus tard, le 24 juillet, 160 000 personnes dans la rue. Et il y a trois jours, encore plus de 200 000 personnes recensées par le ministère de l'Intérieur, des manifestations samedi dernier à Paris, mais pas seulement, en province également, avec certains leaders politiques qui cautionnent et encouragent ces rassemblements de contestation du côté de l'extrême droite et de l'extrême gauche. On sent bien que ces manifestations ne sont pas seulement des rassemblements anti-vaccins. Le gouvernement utilise d'ailleurs des éléments de langage, hein, pour expliquer que ce mouvement est marginal, que 42 millions de Français, on l'a dit, sont vaccinés, que la France est l'un des pays au monde où la population a le plus adhéré à la campagne de vaccination. C'est un mouvement radical, extrémiste, glisse-t-on du côté du gouvernement pour commenter ces manifestations de samedi en samedi. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, elle a fustigé, je cite, « une espèce de club de losers qui essaie de se refaire la cerise sur les inquiétudes des gens ». Mais on le surveille, ce mouvement et ces manifestations de très près, car dans 9 mois, les Français, eh bien, ils seront dans les urnes. L'élection présidentielle de 2022 qui va arriver très vite, dès le mois de septembre, hein, tous les candidats déclarés ou non vont se mettre en ordre de marche. La campagne, hein, qui ne dit pas son nom et qui a déjà commencé pour beaucoup. Et le président de la République, dans tout ça, Emmanuel Macron, grand favori pour être réélu pour un second mandat, même s'il ne s'est toujours pas déclaré, il le fera en temps voulu. Le président de la République qui n'a aucune envie de voir ces manifestations prendre de l'ampleur, de devoir gérer tous les samedis de septembre à mai des manifestations en tout genre.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et maintenant, un extrait de Europa Voice et ce focus sur le vote en France la semaine dernière du pass sanitaire. Et on retrouve notre collègue Grégory Pless avec Nathanaël Bloch.
Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode aujourd'hui d'Europa Voice. Comme d'habitude, on est avec Nathanaël Bloch. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors Nathanaël, aujourd'hui on va parler du pass sanitaire, ou plus exactement de l'extension du pass sanitaire qui a été voté dimanche soir en France dans sa version définitive. Ce pass sanitaire, au final, à quoi il va ressembler ?
Alors déjà, qu'on peut dire d'abord comme premier élément, c'est que évidemment, par rapport aux annonces très fortes du président Macron, on a un texte qui est un peu plus, peut-être qu'on peut le qualifier de rationnel, ou en tout cas un texte un peu moins clivant. On l'a vu, hein, au fur et à mesure de cette navette législative, on a eu quelques éléments de ce texte, de cette première mouture, qui ont été enlevés, ou en tout cas qui ont été un petit peu polis. Et donc, on se retrouve maintenant avec un texte qui va devoir être appliqué dans les prochains jours par l'ensemble des Français.
Alors oui, effectivement, le texte a été un petit peu revu pour, en quelques mots, revenir sur le discours d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier où il avait annoncé l'extension de ce pass sanitaire. On avait des mesures, effectivement, j'ai envie de dire, à l'australienne, avec des peines de prison, des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les contrevenants. Ça a été en partie brossé, déjà parce qu'il y a... beaucoup d'opposition, malgré tout, en France. Je crois que plus d'un tiers de la population, d'après les sondages, y est opposée. Et on a eu d'ailleurs, comme en Australie, mais avec une ampleur beaucoup plus importante, des manifestations ce week-end et le week-end dernier également, alors qu'on est en plein juillet, période de vacances. Et c'est assez rare quand même.
C'est rare, mais c'est difficile de sortir les Français de France. Hein, donc, on s'attendait quand même à avoir ces manifestations. Ce qui me semble aussi important de préciser dans cette comparaison France-Australie, c'est qu'en France, il faut bien distinguer deux débats. Il faut bien distinguer l'obligation vaccinale et la campagne de vaccination elle-même de l'introduction et de la généralisation d'un pass sanitaire qui donc met certains jalons ou en tout cas certaines limites aux libertés de mouvement, de circulation et de rassemblement. Je pense que c'est important de préciser ces choses-là parce que dans les manifestations qu'on a vues, on a aussi eu des fois une confusion entre des slogans qui étaient contre l'obligation vaccinale elle-même. Alors, je prends un exemple. Après ce texte, après l'adoption de ce texte, on a une obligation vaccinale pour les soignants. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été voté pour les soignants. Ils doivent forcément être vaccinés. Mais on n'a pas d'obligation vaccinale pour le reste de la population. Par contre, si on va sur le terrain du pass sanitaire lui-même, dans l'accès aux lieux publics, dans un certain nombre de lieux publics, cinéma, restaurants et encore d'autres, là, on a une obligation de présentation de ce pass sanitaire, j'allais dire, quel que soit votre rôle, votre fonction dans la société. Et ça me semble important hein, de bien différencier ça, parce que ça va être aussi, en termes de communication, un vrai effort de pédagogie de la part du gouvernement, de bien faire la part des choses et de bien expliquer, en fait, ce qui va ressortir d'une obligation vaccinale de ce qui va ressortir d'une obligation de présenter un pass sanitaire. Par rapport à l'Australie, je pense, et là je fais un peu mon cocorico, mais qu'en France, on a quand même déjà un temps d'avance sur ce débat-là, et on arrive vraiment un petit peu à, j'allais dire, sortir la tête de l'eau par rapport à où est-ce qu'on en est dans la vaccination et où est-ce qu'on en est finalement dans l'après-Covid. Alors qu'en Australie, on est quand même à des temps très... très en amont encore, où finalement, on les changeait un peu hors antenne, hein, les gens qui manifestent, on ne sait pas trop bien encore pourquoi ils manifestent, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une distinction entre obligation vaccinale versus passe sanitaire.
Ouais. Alors, pour revenir sur ce passe sanitaire, on vient de parler de ceux qui le critiquaient, qui étaient opposés. Cette version finalement votée par le Parlement, elle a donc enlevé un certain nombre des mesures les plus chocs qui avaient été annoncées par le président. Et du coup, parmi ceux qui le soutiennent, il y en a qui pensent qu'il a été un peu vidé de son sens et qu'au final, il ne sera pas aussi efficace qu'on l'attendait.
Alors, c'est difficile hein, de lire dans les boules de cristal. Moi, je crois surtout que ça a permis aussi de clarifier des choses ou qui auraient pu être des motifs de tension. Et je crois que c'était vraiment une volonté aussi du législateur. Et là, je parle pas que du gouvernement, je parle vraiment de la représentation nationale. Par exemple, sur le motif de licenciement. C'est-à-dire qu'on arrivait presque à un débat où le fait de ne pas, de pas se conformer pardon, à une obligation vaccinale ou même de présenter un pass sanitaire pouvait faire que c'était un motif légitime de licenciement avec tout ce que ça peut impliquer aussi comme modification du code de travail, du rapport de force, de la relation salarié-employeur, etc. Donc, par exemple, ça, c'était vraiment une grande inquiétude de personnes qui ne sont pas forcément, et c'est important de le préciser, on peut être, et en France, on a vu hein, quelques voix prendre cette direction, on peut être totalement pour l'obligation vaccinale, mais vouloir borner l'application du pass sanitaire et ses effets. Donc, par exemple, ça, c'est un gros poids, j'allais dire, qui a été enlevé du débat, c'est que ça ne va pas devenir un motif de licenciement. Ensuite, on a un tas d'autres mesures, j'allais dire, qui ont été votées, discutées et finalement adoptées. Par exemple, dans les centres commerciaux, on va avoir un pass sanitaire qui ne sera pas exigé à l'intérieur de ces centres commerciaux. Certainement pour des raisons, Grégory, plus de praticité et de modalités de vérification qui seront impossibles, parce que un des objets de débat aussi, c'est aux commerçants, c'est aux restaurateurs de vérifier l'identité d'un client, ou est-ce que c'est un pouvoir qui doit appartenir à la police, par exemple. Et donc, on a comme ça tout un tas d'accommodements. Pareil, on a eu tout un débat sur l'école et l'obligation vaccinale, le pass sanitaire pour des mineurs. Donc, vous voyez, on est vraiment en train de voir point par point pour que cette mesure, pour qu'il y ait une acceptabilité de cette mesure. La vraie question sous-jacente et derrière ça, c'est à partir de quel moment est-ce que on est d'accord de restreindre la liberté, et surtout est-ce qu'à partir de quel moment on peut montrer que on a, et là je reprends les mots de la commission de la CNIL, hein, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, où on a la présidente Marie-Laure Denis qui avait été auditionnée par Sina, qui avait dit est-ce que cette atteinte aux libertés, est-ce qu'elle ne peut être admise que si l'État peut démontrer que le surplus d'efficacité qu'apporte le pass sanitaire apparaît nécessaire. Et donc maintenant, on est vraiment dans ce débat qui est assez sain, en fait, pour la démocratie, c'est comment est-ce qu'on borne ce pass sanitaire pour montrer que les mesures qui en découlent apportent plus de bénéfices que de mal aux autres grands principes qui régissent la vie en collectivité en France.
Donc en tout cas, on verra dans les semaines à venir comment concrètement sur le terrain ça se passe avec ce pass sanitaire. Ce qui est sûr, c'est que ça a eu d'une certaine manière l'effet escompté, c'est-à-dire que ces derniers jours, on a eu vraiment un pic du nombre de rendez-vous pris pour des vaccinations. Les vaccinations en France qui étaient retombées à un niveau un peu plancher et qui sont reparties à des niveaux très très élevés, 800-900 000 vaccinations par jour. Et je voyais qu'on a passé maintenant le cap des 40 millions de personnes primo-vaccinées sur une population de 67 millions. Vu d'ici, en tout cas, ça laisse un peu songeur.
J'allais rajouter que c'était effectivement un des objectifs, hein, du chef du gouvernement, c'était d'atteindre cet objectif des 40 millions de primo-vaccinés en France. Et ça a été atteint, ça vient d'être atteint. Et puis, pour revenir aussi sur ce que vous venez de dire, c'est important, encore une fois, au-delà de l'aspect, j'allais dire, législatif et sanitaire de ce qui est en train de se passer avec l'obligation et vaccinale, il y a un besoin d'acceptabilité du changement. Et d'autant plus quand ça touche aux libertés individuelles. Et je trouve qu'on est dans une phase, et là je prends un peu une casquette peut-être plus de communicant que d'analyste, on est dans une phase où on voit vraiment que le gouvernement essaye de faire vraiment attention à ça. C'est-à-dire qu'il essaye vraiment de faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs de communication qu'on avait pu voir au début de l'épisode Covid. Et par exemple, très rapidement, le Premier ministre Castex a dit que si sanctions devaient s'appliquer, on allait laisser un temps de latence d'une semaine avant, entre l'introduction de l'obligation du pass sanitaire et les sanctions. Donc on voit bien vraiment que, encore une fois, au-delà de l'aspect sur le fond de ce pass sanitaire, des débats, etc., on a un gouvernement qui veut essayer d'avoir une rentrée de septembre la plus, j'allais dire, apaisée possible. Et je trouve que ça va être intéressant de voir comment, justement, ces manifestations, elles vont ou pas s'intensifier, ou bien le ballon de baudruche va progressivement s'atténuer jusqu'au pic de calme, normalement, qu'on observe autour du 15 août.
D'accord. Nathanaël, a un pass sanitaire tel qu'il vient d'être voté en France, il n'y a pas d'équivalent en Europe, il y a des choses qui ressemblent, mais qui va aussi loin, c'est complètement inédit. Hein.
La France est effectivement pionnière dans ce pass sanitaire, en tout cas dans la manière dans laquelle il est élaboré et déployé en France. Ce qu'on a un petit peu en chapeau, c'est évidemment la volonté d'avoir un pass sanitaire européen. Le problème, c'est qu'on a évidemment des désaccords entre le Parlement, on va dire, et les pays membres. Il y a vraiment j'allais dire trois sujets qui font que je suis pas sûr qu'on soit déjà prêt de voir dans les prochains jours un pass sanitaire européen. D'abord, il y a la question des frontières. Ça veut dire qu'il va falloir aligner à la fois la mise en place d'un pass sanitaire et les décisions sur les frontières. C'est-à-dire qu'à partir de quel moment le pass sanitaire vous permet d'accéder à n'importe quel autre pays de l'Union européenne sans qu'il y ait d'impact sur votre droit de traverser les frontières. C'est-à-dire, est-ce que Schengen va encore être mis à mal et donc en fait le pass sanitaire va s'avérer un petit peu inefficace parce qu'il vous permettra pas de voyager parce qu'une décision sera prise que les ressortissants français pourront pas aller en Allemagne ou autre situation. Ça, c'est la première difficulté. C'est ces voyages des détenteurs de pass sanitaire sans restriction en Europe. Ensuite, c'est effectivement à partir de quel moment on met en œuvre ce pass sanitaire parce qu'on est sûr qu'on a une couverture vaccinale suffisante en Europe. C'est à partir de quel moment on décide d'ouvrir les vannes parce qu'on sait qu'on a atteint, alors je ne sais pas si on peut parler de l'immunité de masse, mais on a atteint une population assez importante couverte par le vaccin pour diminuer le risque de clusters et d'autres mouvements de nouveau qui entraîneraient une hausse des contaminations. Et puis le dernier élément, c'est la question du financement en fait des tests pour les personnes non vaccinées, c'est-à-dire que qui va prendre ça en charge dans le cadre où vous permettez aux voyageurs détenteurs d'un pass sanitaire de voyager. C'est aussi une question, voilà, c'est à partir de quel moment c'est la responsabilité de l'Europe ou d'un État membre. Donc la France est à la fois en avance sur le déploiement, sur la conception de ce pass sanitaire, mais je ne suis pas sûr non plus qu'on soit prêt de voir dès demain une initiative comme ça, semblable, supranationale, qui s'appliquerait dans l'ensemble de l'Europe. Et puis je pense que ce qui est un peu derrière la tête des dirigeants européens, c'est quand même la crainte du variant Delta.
Très bien, merci Nathanaël pour ce point sur le pass sanitaire.
Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.